We're now on track to have enough vaccine supply for every adult in America by the end of May.
Ça, c'est le président Biden, Raphaël, qui dit on est maintenant sur une trajectoire qui va nous permettre de vacciner tous les adultes américains d'ici la fin du mois de mai.
Oui, et ça, c'est une trajectoire qui a changé, qui s'est améliorée. Parce que, en fait, il y a à peine quelques jours, le président Biden disait qu'on atteindrait ce stade-là d'ici la fin du mois de juillet. Or, quelques jours plus tard, gros coup de théâtre, dans la dernière heure, le président des États-Unis qui vient d'annoncer que non, on allait devancer ça de 2 mois. On allait être en mesure, en fait, de devancer ça de 2 mois. Et donc, d'ici quoi? Fin mai, tout adulte américain voulant avoir un vaccin pourrait en avoir un. Donc, qu'est-ce qui explique ça? Plusieurs choses. D'abord et avant tout, le fait qu'on a maintenant un troisième vaccin après celui de Moderna, après celui de Pfizer, celui donc de Johnson & Johnson qui a été approuvé dernièrement aux États-Unis. Je le mentionne pour les gens qui nous écoutent, ce vaccin-là n'a pas été encore approuvé au Canada, mais aux États-Unis, ça a été approuvé. Et ce que le président a aussi annoncé, c'est que, et ça c'est quand même historique, là, c'est remarquable en soi, Johnson & Johnson, qui est évidemment un des plus gros géants pharmaceutiques de la planète, allait collaborer avec Merck, un autre des plus gros géants pharmaceutiques de la planète, pour accélérer la production, la livraison de ces vaccins-là. Merck, de son côté, était déjà en train de plancher sur un vaccin, décide au final d'abandonner ça, de collaborer avec Johnson & Johnson. Et le président a invoqué cette fameuse loi-là dont toi et moi, on s'est parlé souvent à l'émission depuis la dernière année, là, ce qu'on appelle le Defense Production Act, qui permet au gouvernement fédéral américain de, si on veut, un petit peu le tordre le bras de certains acteurs du secteur privé pour les forcer à faire un effort public, disons. Donc, ça rentre là-dedans aussi. Écoute, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont dire que ça remonte à l'administration Trump, tout ça. C'est vrai. Donc, il y a une certaine partie du crédit qui doit retourner là. En même temps, ce qui est également vrai, je pense qu'il faut rappeler, c'est le manque effarant de collaboration qu'il y avait eu pendant la période de transition entre l'administration Trump et l'administration démocrate qui allait arriver. Puis je ne sais pas si tu te rappelles, mais on se parlait de ça aussi à l'émission, le fait qu'une des craintes qu'on avait aux États-Unis, c'est que le président sortant et son équipe collaboraient tellement peu avec le président à devenir pour quelque chose qui était aussi complexe qu'une campagne de vaccination que ça pourrait quand même potentiellement créer des gros problèmes. Or, force est de constater, après quoi, à peu près un mois et demi, qu'on semble avoir évité le pire et qu'au contraire, on se dirige sur la bonne voie. Fait qu'il y a beaucoup de positifs là-dedans.
OK, puis après ça, les Américains vont continuer à produire des vaccins. S'ils ont des surplus début juin, ça va aller où?
Ben c'est ça la plus grosse question présentement. C'est si et quand il y a des surplus, est-ce que ça s'en va ailleurs, notamment au Canada? Parce que quand Justin Trudeau et Joe Biden, justement, se sont, entre guillemets, là, rencontrés de façon virtuelle la semaine dernière, c'était une des demandes du gouvernement canadien, savoir est-ce que, compte tenu des certains problèmes qu'on a là, au niveau de l'approvisionnement du côté canadien, est-ce que les Américains pourraient aider? On n'avait pas de réponse à ce moment-là. Là, on en a une. C'est-à-dire que c'est catégoriquement non, tant et aussi longtemps qu'il n'y en aura pas pour tous les adultes aux États-Unis. Autrement dit, d'ici fin mai, début juin, oubliez ça. Au-delà de cela, par contre, c'est très possible. Donc, il n'y a pas d'engagement qui a été pris formellement par l'administration américaine, mais c'est possible. Ça a des implications pour le Canada. Je dirais que ça a aussi, sinon plus, d'implications pour des pays qui ont encore moins de moyens. Fait que ça, c'est une très grosse question. Autre question, ça va être de savoir, là on se parle de disponibilité, il y aura une question à un moment donné aussi de volonté. C'est-à-dire, avant, on se demandait, est-ce qu'il va y avoir un vaccin? Là, on s'est demandé dernièrement quand est-ce qu'il va y en avoir pour tout le monde. Éventuellement, on va peut-être se demander davantage quand est-ce qu'il va y avoir assez de monde qui va en vouloir. Il y a cette question-là, mais il y a une chose qui est évidente présentement, ça progresse bien aux États-Unis. Écoute, ça fait un an qu'on répète à juste titre que les États-Unis ont un des pires bilans de mortalité liés à la COVID-19 de la planète, après là, une petite poignée de pays européens. Mais ce qui est quand même vrai, c'est qu'en date d'aujourd'hui, à part là aussi une petite poignée de pays comme Israël, puis le Royaume-Uni, puis les Émirats arabes, il y a personne qui passe proche du taux de vaccination aux États-Unis. Écoute, on est rendu à plus de 15% de la population qui a reçu au moins une dose et près de 50% de ce qu'on peut appeler, disons, la population la plus vulnérable qui a reçu quand même une dose. Donc, écoute, ça fait du bien d'avoir une bonne nouvelle. En voici une aujourd'hui.
OK. Parlant de bonnes nouvelles, là, tu veux nous parler des prévisions optimistes de la firme JP Morgan.
Oui, bien en fait, c'est sur la même lancée. C'est-à-dire que tout cette espèce de vent d'optimisme-là au niveau du vaccin, au niveau de la pandémie, évidemment que ça a des répercussions au niveau économique. Et JP Morgan, un des géants de Wall Street, a annoncé aujourd'hui que son équipe d'économistes s'attend. Puis là, avant d'aller plus loin, je mets quand même un gros bémol. Il faut prendre ça avec un grain de sel. Ça serait pas la première prédiction erronée, disons, de la dernière année. Mais quand même, je te la partage. Elle s'attend donc à une création d'à peu près 8 millions d'emplois et un taux de chômage qui redescendrait sous la barre des 5 %. Et ça, là, c'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 3 ans. C'est d'ici la fin de l'année 2021. Fait que c'est ça. C'est une belle journée, présentement, du côté américain, quand on regarde tout ça.
OK. Rapidement, le directeur du FBI témoignait aujourd'hui au Congrès. Et pour lui, là, c'est clair comme de l'eau de roche. Les gens qui ont commis l'insurrection du 6 janvier, ben, ce sont des suprémacistes blancs.
Absolument. Et non seulement ça, mais il a pris la peine d'essayer de déconstruire certains mythes qui perdurent encore aujourd'hui. C'est-à-dire, non, c'était pas Antifa. Non, c'était pas des groupes d'extrême gauche. Et non, c'était certainement pas des faux partisans de Donald Trump qui ont parti le bal le 6 janvier pour essayer de mal faire paraître l'ex-président. Donc, il y a eu ça qui a été déclaré. Il y a également eu ceci, mise à jour pour ce qui est de l'énorme enquête nationale là, sur l'insurrection. Donc, on est rendu à plus de 250 arrestations de personnes qui ont été formellement inculpées devant des tribunaux fédéraux. Et on se pose encore dans tout ça une des questions les plus fondamentales, c'est-à-dire comment est-ce possible que le Capitole ait pu être aussi mal défendu, aussi peu défendu? Cette question-là, le directeur du FBI n'y avait pas vraiment de réponse aujourd'hui.
Merci Raph, on se parle demain.
À demain.